La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu de prière. Bienvenue que vous soyez ici des habitués ou que vous découvriez pour la première fois ce lieu. Vous êtes ici chez vous et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes aussi heureux d'accueillir ce matin un invité qui nous vient de Berlin et qui est pasteur à l'église du souvenir de Berlin. Et c'est Martin Germer que nous avons la chance et l'honneur de recevoir dans notre église et qui va nous donner la prédication ce matin. Je vais laisser Martin se présenter lui-même pour nous adresser les mots qu'il a choisi de nous adresser ce matin. Et nous allons pouvoir entendre sa parole et nous sommes très heureux d'avoir déjà entamé des relations avec Berlin et d'avoir pu l'année passée avoir une délégation qui soit partie à Berlin pour vivre un culte avec l'église du souvenir de Berlin. Je laisse la parole à Martin pour qu'il puisse lui-même nous dire dans quel esprit il est là et puis peut-être aussi se présenter lui-même. Voilà.
Voilà, merci et bonjour. Je suis un peu excité puisque c'est la deuxième fois de ma vie que je donne une prédication en français. Normalement, ma langue est l'allemand, bien sûr. Je viens d'une église avec un nom un peu compliqué. Elle s'appelle officiellement Église commémorative de l'empereur Guillaume. Une église en mémoire d'un empereur. Ça nous n'intéresse point à notre époque. Mais cette église au milieu de Berlin-Ouest est très connue pour sa tour en ruine qui est restée de l'ancienne église après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle est devenue un souvenir de l'affreux de toute guerre et un symbole de paix et de réconciliation. Ça, c'est notre fonction aujourd'hui. Et l'ancienne tour est entourée de bâtiments modernes qui sont l'œuvre d'une bonne, très bonne coopération entre un architecte allemand et un maître verrier français de Chartres, Gabriel Loire. Les vitraux bleus, très fameux de cette église, sont aussi un symbole de paix et de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est très intéressant d'entrer en contact avec cette paroisse ici au centre de Paris. Nous, centre de Berlin, centre de Paris, ça, je crois, ça va donner quelque chose. Je vous remercie que je peux être ici.
Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de l'éducation biblique. Et à ce titre, eh bien, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir tous les petits, les jeunes de l'éducation biblique qui sont réunis pour leur rencontre mensuelle.
Voilà, et nous laissons la place au cœur de l'oratoire qui est avec nous ce matin et qui pourra chanter avec nous, enfin avec nous, pour nous plutôt, on va les laisser chanter, deux chorales de Bach qui sont dans la Passion selon Saint Jean. Je vous invite à prendre le premier spontané que vous avez à disposition dans le début des psautiers. Vous avez la liturgie entière du culte, qui est la liturgie de l'éducation biblique. Et nous allons pouvoir chanter ensemble le premier réponse. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
lorsque j'aime mon Dieu, mais aussi le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, les voici me disant de partout de t'aimer. Mais qu'est-ce que donc que j'aime lorsque je t'aime ? Non la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni la brillance de la lumière, cet ami de mes yeux ici-bas, ni les douces mélodies des chants de toutes sortes, ni des fleurs, ni des parfums, ni des aromates, la suave odeur, ni la manne, ni le miel, ni les membres ouverts aux charnelles étreintes. Non, ce n'est pas ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime une certaine lumière, une certaine voix, un certain parfum, un certain aliment, une certaine étreinte. Lorsque j'aime mon Dieu, lumière, voix, parfum, aliment, étreinte de l'homme intérieur qui est en moi, c'est lui qui est présent, où brille pour mon âme ce que l'espace ne peut enfermer, où résonne pour elle ce que le temps ne peut voler, où s'exhale un parfum que le vent ne dissipe, où se savoure un mets que la voracité ne réduit, où se noue une étreinte que la satiété ne dessert. Oui, voilà ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 33 que vous trouverez dans le recueil Le Psautier français. De ce psaume 33, nous chanterons les 4 strophes.
Thank you.
Prenez place.
Nous écoutons maintenant la volonté du Seigneur qui nous est transmise par les témoignages bibliques. Et dans l'évangile de Marc, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Chantons ensemble. Nous nous présentons devant le Seigneur. Dietrich Bonhoeffer disait, et il l'écrit, « Les hommes ne peuvent se retrouver en communauté s'ils ne sont convaincus les uns et les autres qu'ils sont tous pécheurs. » C'est cette conscience d'être éloigné de Dieu, d'avoir besoin de son salut qui permet une communauté spirituelle dans l'égalité. Alors je vous invite à entendre les mots de ce théologien. Et il s'adresse à Dieu ainsi. Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi. Païens et chrétiens. Seigneur, les hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes frères. Amen.
Tel que je suis.
Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. Il nous redit sa grâce et sa bonté pour nous. Par l'entremise du prophète Ésaïe, nous savons qu'il est toujours avec nous. Le prophète dit « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. » Et je te garde ma miséricorde. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance pour cette grâce renouvelée sur nous tous.
Appelez dans vos mains tous les humains.
Et nous confessons notre foi avec ces paroles ce matin. Je crois en Dieu, je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec nous tous les calices. Il combattra tous les combats. Il descendra dans toutes les tombes et jusqu'à la fin. Et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen.
Hosanna, Hosanna,
gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons laisser la chaire à Martin pour qu'il puisse nous partager sa parole. Merci.
Chers amis, sœurs et frères, on m'a demandé de prêcher sur un récit d'une vocation biblique. Et comme nous sommes aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale de la femme, il apparaît comme une évidence de choisir une histoire dans laquelle une femme est appelée en témoin du Seigneur. Cette tâche, je l'ai acceptée avec plaisir et je me considère comme un grand honneur que vous, les deux pasteurs de cette paroisse, m'avez confié en tant que collègue masculin. L'histoire se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et c'est déjà une histoire pascale, bien que nous sommes encore au début du carême. Chapitre 20. Cependant, Marie de Magdala se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, ou bien ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et mes sœurs, j'ajoute, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Maintenant, nous chantons le cantique 170, c'est vrai? Bon. Je ne connais pas tout à fait les mœurs ici. Prions. Dieu, je te prie, ouvre-nous pour les mots que les fidèles bien avant nous ont trouvés pour annoncer ta parole et la vérité qui est venue en Jésus-Christ. Rends-nous sensibles pour ce qu'ils nous disent et également pour ce qu'ils nous donnent à réfléchir dans notre responsabilité d'aujourd'hui et avec les questions que nous portons en nous. Amen.
Je vais maintenant inviter les enfants à sortir avec Agnès qui ce matin leur donnera la prédication pour eux. Le mini-culte sera animé par Agnès ce matin. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter le chœur de l'oratoire qui va partager avec nous un autre choral de la Passion selon Jean. Les enfants, s'il vous plaît, voilà. Voilà, et les catéchumènes restent avec nous. Voilà, les enfants du caté à partir de la sixième, je rappelle. Vous restez avec nous. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Fabien.
Oui, chers amis, voilà non seulement une des plus belles histoires pascales, à mon avis, mais voilà en même temps un véritable récit de vocation. Marie-Madeleine, comme elle est nommée couramment, Marie originaire de Magdala, comme je préfère de l'appeler, est la toute première à qui Jésus s'est montré après sa mort étant ressuscité. Et dès qu'elle le reconnaît, elle obtient la mission de faire circuler le message de sa résurrection. Connaîtrions-nous une vocation encore plus importante parmi les chrétiens? Cependant, ce récit de vocation de Marie de Magdala ne se résume pas à lui-même. Il a des implications de grande portée. Il s'agit également de savoir quel rôle les femmes ont joué parmi ceux qui ont suivi Jésus et quelle importance elles avaient pour la formation de la foi dès le début du christianisme. Un texte de l'apôtre Paul montre à quel point cela est intéressant et important. Dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, il énumère dans une partie vraiment centrale ceux qui ont vu Jésus ressusciter des morts. Écoutons-le en chapitre 15. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Cephas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors temps. » L'avez-vous remarqué? Paul, lui, il ne parle que des hommes. Il semble n'avoir jamais entendu parler de Marie de Magdala. Et ceci est d'autant plus surprenant qu'il n'était pas du genre à mépriser les femmes. Dans sa lettre aux Galates, il a souligné que dans la communauté chrétienne, la différence entre les femmes et les hommes ne devrait avoir aucune signification. Dans sa lettre aux Romains, il salue à la fin une certaine Junia, qui selon lui était célèbre parmi les apôtres, puis d'autres femmes occupant des postes de direction dans la communauté. Alors, pourquoi donc Paul ne mentionne-t-il pas Marie de Magdala comme témoin de la résurrection? N'avait-il vraiment jamais entendu parler d'elle? C'est un mystère dont je ne connais pas la réponse. Mais je veux d'autant plus confirmer que c'est tout à fait différent dans les quatre évangiles. Marie de Magdala s'y trouve partout. Et nous la rencontrons dans des constellations les plus importantes, avec Jésus sur la croix, puis face à sa tombe et surtout après sa résurrection. Pour commencer avec la mort de Jésus sur la croix, tous les évangélistes parlent d'un groupe de femmes qui ont eu le courage et la force d'y rester jusqu'à la fin. Et presque tout, ils mentionnent expressément Marie de Magdala en ce moment. L'évangéliste Marc nous rappelle en outre que ces femmes qui ont tenu bon avec Jésus jusqu'à la fin l'avaient suivi depuis longtemps, en Galilée déjà, et ensuite sur le chemin vers Jérusalem. Ainsi, déjà de son vivant, il n'y avait pas seulement des hommes, mais également un grand groupe de femmes autour de Jésus. Et là aussi, Marie de Magdala semble avoir joué un rôle très important. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit aussi parmi les femmes qui ont accompagné le corps de Jésus jusqu'à son tombeau. Tandis que les disciples masculins avaient dû s'enfuir et se cacher déjà lors de son arrestation pour la plupart. Et quand deux jours après, à l'aube, après le sabbat, les femmes se rendent au tombeau à la première heure pour oindre le corps de Jésus, c'est de nouveau Marie de Magdala
qui se trouve parmi eux et dont nous trouvons le nom dans les récits bibliques. Arrivés au tombeau, les femmes rencontrent des anges, nous l'avons entendu. Ceux-ci disent à elles, « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il vous l'a dit, et que c'est à eux d'annoncer cela aux disciples, aux femmes. » Cependant, ce qui s'ensuit, chacun des évangélistes le raconte différemment. Chez Marc, tout cela est tellement incompréhensible et les femmes ont tellement peur de ce qu'ils ont subi en ce moment-là qu'elles n'osent en parler à personne. Chez Luc, les femmes essayent de raconter aux disciples masculins, mais ceux-ci le tiennent pour un conte de fées. Il faut que Pierre lui-même rencontre le Seigneur ressuscité pour que la nouvelle réalité puisse lentement pénétrer dans la conscience collective. Toute autre chose dans ce récit que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean. Cet évangéliste nous présente la femme Marie comme tout à fait la première, au premier plan. Seulement, au début, Marie avait amené encore deux de ses camarades masculins car elle craignait que le corps de Jésus avait été volé. Mais ses disciples n'ont pas compris ce que le tombeau vide pourrait signifier pour eux. Ils retournent vers les autres sans rien dire. Marie reste toute seule devant le tombeau, tout en pleurant. Et c'est le moment où le ressuscité se montre à elle tout en premier. Cependant, elle ne le reconnaît pas. Chose assez surprenante, elle tient pour le gardien et pour le jardinier. Et, assez drôle d'idée, elle le soupçonne en plus d'avoir emporté le corps de Jésus. Alors, Jésus donc aurait dû emporter son propre corps. Drôle d'idée. Mais pour comprendre cela, il faut savoir que c'est une spécialité de l'évangéliste Jean de raconter de tels malentendus et confusions pour exprimer des vérités plus profondes. Donc, ici aussi, la résurrection de Jésus ne doit pas être imaginée de telle manière qu'il soit simplement parti pour deux jours dans la mort et dans la tombe et après que cela, qu'il en soit ressorti comme avant. La résurrection est quelque chose qui ne peut pas du tout être appréhendé par des catégories normales. Jésus ressuscité se présente d'une manière complètement différente du Jésus sur terre. Vu cela, Marie réagit d'abord d'une façon tout à fait normale. Elle cherche une explication qui soit compatible avec ses expériences quotidiennes. Cet homme inconnu ne peut être qu'un jardinier en ce lieu. Beaucoup de gens auraient réagi comme elle face à une expérience tellement bouleversante. Marie se tient donc ici de manière exemplaire pour tous ceux qui, au début, ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Ses larmes aussi représentent une réaction tout à fait compréhensible. Selon Jean, Jésus lui-même aurait également pleuré, par exemple devant la tombe de son ami Lazare. Et ici, ça donne l'occasion de demander à Marie deux fois, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Marie ne répond pas, mais chaque lecteur, chaque lectrice pourrait imaginer une réponse à sa place. Par exemple, « Je pleure sur le fait qu'avec lui, tous nos espoirs sont morts. » Ou « Je pleure pour notre monde où quelque chose de si terrible se produit, toujours de nouveau, comme la mort de Jésus. Je pleure pour moi-même étant entièrement perdu. » Marie, cependant, au lieu d'exprimer son chagrin profond, elle parle de son irritation momentanée. « Ils ont enlevé le Seigneur de sa tombe et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Je voulais du moins lui rendre ce dernier service. Cela m'aurait donné un peu plus de soutien. mais même de cela, on m'a privé. Voulant se précipiter pour aller chercher le corps, elle tombe dans l'actionnisme. Et avec ça, elle représente à nouveau nous tous. Elle représente notre tendance de nous écarter de nous-mêmes, en voulant du moins agir, afin d'agir d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Marie ». Et cette forme d'adresse très personnelle est peut-être la seule qui puisse l'interrompre. « Marie ». Enfin, elle est atteinte tout directement. Et voilà ce qu'il faut aussi pour nous, pour que la vérité et la réalité de la résurrection puissent atteindre nos cœurs, que nous nous trouvions personnellement interpellés comme Marie, que nous ressentions comment cela transforme quelque chose en nous, à l'intérieur de nous, que nous redevenions calmes et retrouvions la paix. En représentante de nous tous, Marie peut dire à ce moment « Rabouni, maître ». Enfin, elle arrive à reconnaître le Seigneur en cet homme en face d'elle. Et en entendant son propre nom, elle reconnaît son maître Jésus qu'elle avait suivi depuis si longtemps et de qui elle avait appris tant de choses. Mais lorsque cette reconnaissance s'est établie en Marie, elle agit à nouveau d'une manière très humaine. Elle essaye de s'accrocher à Jésus et de le retenir près d'elle. Mais le maintien de ce qui a existé auparavant n'est pas la voie qui mène à la foi. Jésus est en route vers le Père afin que tout le monde puisse le reconnaître en lui, comme frère et sœur, comme fils et fille de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ce n'est pas une affaire seulement entre Jésus et Marie ou entre Jésus et le groupe de ses disciples d'avant. Alors Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas, ne me retiens pas. » Et Marie, elle accepte. Sa mission est maintenant de se mettre de nouveau en route, aussi elle-même. Elle doit aller voir les frères et les sœurs et leur dire, « Il vit, il est maintenant sur ce chemin vers Dieu par lequel son Père veut aussi devenir le Père de nous tous. Voici sa vocation désormais. « J'ai vu le Seigneur, dit-elle aux disciples. » Ce sont les mots classiques de la confession pascale. « J'ai vu le Seigneur. » Paul en parle aussi dans son énumération des témoins de la résurrection. Ce sont qui l'ont vu, qui ont vu Jésus ressuscité. « Et voici ce qu'il m'a dit. » ajoute Marie, ce qu'elle a vécu au-delà des malentendus, elle va maintenant le transmettre aux autres. Et ici, dans l'évangile de Jean, ce message de Marie va être entendu et compris. Le soir du même jour, Jésus viendra aussi vers les autres disciples et il les trouvera bien préparés grâce à Marie. Les apparitions qu'elle a d'abord connues, elles ne seront plus nécessaires pour les autres. Lorsque le ressuscité leur parle et leur montre ses stigmates, ils le reconnaîtront tout de suite et avec beaucoup de joie. Ainsi, Marie, ce tout premier témoin du ressuscité selon l'évangile de Jean, elle est devenue l'apôtre des apôtres. Déjà au IIIe siècle, on lui a accordé ce titre d'honneur pour la première fois. Et il y a quelques années seulement, dans l'Église catholique, chez nos frères et sœurs dans la foi, cela est devenu son titre officiel, apôtre des apôtres. Sous le pape François, la Congrégation pour le culte divin a décerné ce titre honorifique à Marie de Magdala en 2016. Mais on raconte aussi déjà dès le Moyen-Âge, selon la légende Auréa, qu'elle serait venue en France comme missionnaire de la Provence. Et on lui attribue encore d'autres histoires au long des siècles. Et si l'on voit les tableaux, hier j'ai été au Louvre, j'en ai vu plusieurs. Il y a tas d'histoires qui s'accrochent aussi à Marie de Magdala. Cependant, je l'ai déjà laissé entendre, ce récit de vocation dans l'évangile de Jean est plein de symbolisme. On pourrait aussi dire c'est un récit très stylisé. Et on sait qu'il a été fixé par écrit un demi-siècle plus tard. Alors, tout cela n'est-il peut-être que de la fantaisie narrative? Je pense que dans ce récit de la vocation de Marie et dans les histoires des femmes près de la croix et face au tombeau de Jésus, on peut trouver en tout cas le souvenir largement attesté d'un fait historique. C'est le fait que dans la communauté autour de Jésus, ce sont des femmes qui sont restées le plus étroitement en contact avec lui après sa mort. Ce sont tout d'abord des femmes qui ont pu sauvegarder leur foi en lui et en même temps accepter et approuver la transformation de cette foi en quelque chose d'inattendu et de tout à fait nouveau. Alors que leur compagnon masculin s'était caché et ne savait pour un certain temps pas quoi faire et quoi croire. Et maintenant, où est-ce que la dernière page? Il me paraît assez certain, ou disons au moins vraisemblable, que dans les lettres du christianisme primitif qui se trouve dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, l'importance des femmes autour de Jésus a été progressivement relativisée, entre autres en racontant et en écrivant moins d'histoires de femmes que d'hommes. Donc autant plus, c'est bien qu'il y ait cette histoire, ce récit de Marie de Magdala. Il est important de voir que cette tradition existe et qu'elle a été peut-être le premier témoin de Jésus ressuscité vraiment. Le premier témoin et une femme qui était auparavant en route avec lui. Cette femme était son disciple, au plein sens du terme, depuis longtemps. Et nous faisons bien de penser à elle. Dans tous les endroits du Nouveau Testament où les femmes ne sont pas mentionnées. Et nous avons toujours la liberté de les ajouter partout, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles et, évidemment, en lisant la Bible. Amen. Et maintenant, on va chanter, c'est juste? Prochain cantique, 200. Non?
Voilà, nous allons écouter notre organiste Sarah Kim ce matin. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Sarah, pour cette méditation musicale. Merci, Martin, pour cette prédication. Je voulais, avant que nous chantions le cantique, demander aux enfants s'ils comprennent pourquoi nous avons encore besoin d'une journée internationale pour le droit des femmes. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a encore besoin de ça? Vous connaissez quelques raisons pour ça? D'après vous, pourquoi on a besoin de noter un jour dans le calendrier pour se souvenir du droit des femmes? Quelle est l'utilité de ça? Oui?
Peut-être que parfois il y a des inégalités entre les hommes.
Vous en connaissez quelques-unes, des inégalités comme ça? Oui?
Le salaire?
Le salaire. Voilà. S'il y a des chefs d'entreprise ici, vous, mais vous êtes déjà tous au point là-dessus, je suis sûre. C'est ce que tu voulais dire, oui. La question du salaire, c'est ce qui vous saute aux yeux, bien sûr, oui. Il y a d'autres secteurs où il y a encore des inégalités ou des droits à défendre? Est-ce que tous les droits sont les mêmes pour les femmes dans tous les pays du monde? Non?
Au Japon, je crois que les femmes, elles n'ont pas le droit de travailler ou quelque chose comme ça.
Alors ça, il faudra vérifier. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Mais il y a des endroits où les femmes travaillent beaucoup et où leur travail n'est pas forcément reconnu. Il y a des pays où c'est comme ça, en effet. Et puis, peut-être qu'il y a aussi dans la vie domestique, dans la vie familiale, des choses qui font que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Est-ce que vous pouvez citer des exemples? Pourquoi on a besoin encore de défendre les femmes? Comment c'est possible? C'est la moitié de l'humanité. Hein? C'est étrange. Oui?
En Arabie Saoudite ou en Moyen-Orient, les femmes, elles peuvent pas conduire, elles n'ont pas le droit de conduire, sauf sans la permission de leur mari.
Oui, alors il y a parfois des interdictions sociales comme ça, qui ont la vie dure, hein, qui sont difficiles à lever. Donc, vous voyez, on a des enfants qui sont très conscients de ces questions-là. Et je suis certaine que les générations qui viennent vont changer ça de plus en plus. Si vous voulez être au fait de cette question des femmes, le film de Yann Arthus-Bertrand, Woman, vient de sortir au cinéma. Agnès et moi, nous avons participé au projet. Donc, nous avons été filmées et interviewées l'une et l'autre pour des questions différentes l'une et l'autre. Mais nous avons été extrêmement honorées de participer à ce film. Et donc, nous ne sommes pas retenues. Il y a eu 2000 interviews. Donc, on est beaucoup, beaucoup de femmes. On était là à Paris cette semaine, tout ensemble, pour celles qui étaient sur la région parisienne, à avoir participé, et nous n'avons pas évidemment tout été dans le film qui doit, d'après les producteurs, ne faire qu'une heure 20 ou une heure 30, donc c'était pas possible de mettre tout, mais il y aura bientôt une exposition sur cette question-là, et allez voir d'abord le film qui est extraordinaire pour vous rendre compte de toute la disparité des conditions féminines à travers le monde, mais aussi de tout l'humour dont sont capables les femmes pour arriver à relever les défis qui sont devant elles. Donc je crois que c'est au moment où nous sommes dans cette journée particulière pour les droits des femmes, c'est vraiment le moment d'aller voir ce film-là si vous avez un peu de temps pour ça. En tout cas, nous avons été très heureux d'avoir un homme qui nous a donné la parole aujourd'hui et qui a lui aussi encourager à penser aussi à la place des femmes dans la religion aussi, c'est une vraie question, et dans les textes bibliques évidemment, ça reste un sujet très intéressant. Je vous invite à chanter maintenant le cantique 218, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, c'est le moment des annonces et c'est notre président du conseil presbytéral, André Ducrot, qui va partager avec nous ses annonces.
Bonjour à tous, merci de votre présence et sans tarder, je vais passer la parole au Léopard, si j'ai bien compris.
Voilà. Bonjour, à la sortie, on tient un stand de gâteaux pour financer notre camp d'été. Donc je vous invite à passer après le culte. Voilà.
Merci de cette bonne nouvelle, donc vos desserts à la sortie du culte. Quelques nouvelles pour cette... Alors d'abord, merci à Martin Germer pour sa prédication, sa présence ici. Sachez que peut-être pour l'avenir, nous espérons en tout cas avec ta venue, Martin, pouvoir nouer des liens plus étroits avec ta paroisse à Berlin et peut-être, qui sait, créer un partenariat comme nous espérons le faire avec d'autres capitales européennes, avec Londres, avec en Suisse, avec Amsterdam ou La Haye, je ne sais pas, mais que nous puissions, que l'oratoire puisse avoir des liens avec quelques grandes paroisses européennes. Ce sera le travail du prochain conseil presbytéral, vraisemblablement. Quelques informations, je ne vais pas tout vous dire, vous avez reçu la newsletter et vous savez l'essentiel. Je voulais vous rappeler simplement le mardi 10 mars, le partage biblique à 14h30 avec les pasteurs Agnès Schaeffer et Béatrice qui vous font réfléchir sur les figures masculines de la Bible avec cette fois-ci Job. Et puis samedi, l'hébreu biblique découverte avec le pasteur Gilles Castelnau. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Agnès. Je voudrais tout de suite aussi vous rappeler que le mardi 17 mars à 20h, ici même, nous reprenons les rencontres œcuméniques avec Saint-Eustache. Et c'est Agnès Schaeffer qui organise ces rencontres œcuméniques. Donc ça se déroulera ici à partir de 20h, donc avec la présence du père Yves Trochery. Voilà. Et puis je voulais vous dire aussi que celles et ceux qui veulent s'inscrire pour aller au musée du désert début septembre à Mialet peuvent s'inscrire auprès du secrétariat, auprès de Isabelle Appia, notre assistante de paroisse. Nous allons organiser un déplacement comme nous l'avons fait les années précédentes. Donc ne manquez pas de vous inscrire le plus rapidement possible parce qu'il y a des problèmes de réservation. Même si nous avons trouvé un point de chute, il faut quand même rapidement bloquer les chambres. Donc manifestez-vous auprès du secrétariat. À l'issue du culte, pardon, nous nous retrouverons dans la sacristie pour un pot amical et vous pourrez parler avec Martin, avec Béatrice qui pourront répondre à vos questions et puis échanger entre vous.
Voilà, et je voulais simplement peut-être dire ce que c'était que le rassemblement à Mialet puisque tout le monde ne connaît pas forcément cette tradition. Les premiers dimanches de septembre chaque année, il y a un rassemblement à Mialet avec un culte sous les châtaigniers de tout le protestantisme français et européen est convié à ce culte et nous avons la chance d'avoir un prédicateur chaque année qui vient sur un thème donné et l'après-midi des conférences et des choses très intéressantes qui se passent autour du musée du désert. Et donc c'est un musée très important pour comprendre le protestantisme français. Donc s'il y a des personnes qui ne sont jamais allées là-bas, c'est l'occasion ou jamais de vous joindre au groupe de l'oratoire pour y aller. Voilà. Et je voulais simplement dire que j'ai un petit doute sur la prédicatrice de la semaine prochaine. Je crois que j'étais notée comme prédicatrice pour la semaine prochaine, oui. pour le 15. Oui. Oui, parce que tu as dit Agnès, c'est pas grave. Ah, bon. Avec deux pasteurs comme ça, c'est difficile de se retrouver parfois.
C'est toi qui présideras le culte.
Donc je serai avec vous dimanche prochain, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je voulais simplement dire que cette semaine, il y a une belle initiative qui vient de se créer à l'oratoire pour la première fois, alors que ça existe depuis le 19e siècle un peu partout, mais ici, il n'y avait pas encore eu l'occasion de le créer. Nous avons célébré la journée mondiale de prière des femmes, c'est-à-dire une journée mondiale de prière pour la condition des femmes. Et cette année, c'était le pays, le Botswana, qui nous avait proposé ses prières avec le comité des femmes du Botswana. Voilà. Et nous avons récolté une collecte qui sera envoyée aux ONG qui s'occupent des femmes dans ce pays, et notamment des ONG et des lieux, des, des associations comme l'Armée du Salut qui œuvrent beaucoup pour le droit des femmes au Botswana. Voilà, donc l'année prochaine, nous réitérerons, nous recommencerons cette initiative parce que c'était un moment très agréable et très intéressant de connaissance d'un pays et aussi une action solidaire très importante. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande. Notre Église a besoin de vos dons pour mener à bien sa mission d'annonce de l'Évangile et pour pouvoir aussi mener à bien l'éducation biblique et théologique des enfants que vous nous confiez. Merci beaucoup. Nous prions ensemble et c'est Martin Germer qui va partager avec nous sa prière d'intercession pour ce culte ce matin.
Dieu, toi qui rassembles tous les aspects en toi, les aspects féminins aussi bien que masculins, je te remercie pour la présence active des femmes autour de Jésus dès le début. Je te remercie pour ce qu'elles ont fait et qu'elles ont dit à des moments tout à fait décisifs pour la naissance et l'évolution de la foi parmi nous. Et je te prie, rends-nous sensibles pour cette vérité historique et en même temps si actuelle dans nos églises et dans les églises partout autour du monde. Dieu, toi qui es venu en ton Fils Jésus-Christ pour nous inviter d'aller avec lui, je te prie pour cette paroisse protestante au centre de Paris. Je te prie pour sa vivacité et pour le bon esprit qui relie les unes et les uns aux autres, en écoutant ta parole et en partageant et vivant ensemble la foi dans la congrégation et en rencontre avec d'autres confessions. Je te prie qu'elle demeure ouverte et accueillante pour chacun qui te cherche et qui pourrait être atteint par toi. Dieu, toi qui appelles les hommes et les femmes de toutes les nations du monde à la paix et à la solidarité, je te prie, fais-nous reconnaître et apprécier l'importance de la paix, et des bonnes relations entre nos peuples en Europe. Aide-nous non seulement à maintenir l'état actuel, mais de développer et d'approfondir les relations dans chaque génération de nouveau. Et fais-nous reconnaître notre responsabilité comme chrétiens et chrétiennes pour y contribuer.
Et ensemble, nous pouvons dire la prière que le Seigneur a apprise à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et les enfants, quand vous entendez la cloche comme ça qui sonne au moment du Notre Père, vous pouvez comprendre que c'est le moment traditionnellement où l'Église se relie à tous ceux qui n'ont pas pu venir au culte le dimanche matin parce qu'ils sont dans leur lit de malade ou qu'ils sont retenus chez eux à cause de leur grand âge ou à cause d'obligations familiales. Et c'est une longue tradition qui est de sonner la cloche au moment du Notre Père. On faisait ça dans les villages pour que tout le monde sache qu'à ce moment-là, on arrête tout ce qu'on fait et on dit le Notre Père avec la communauté réunie à l'Église. Donc c'est une façon d'être reliés à distance par l'Esprit Saint les uns avec les autres. Donc retenez cette belle tradition et pensez-y le dimanche matin, même quand vous n'êtes pas là. Nous allons maintenant quitter ce lieu. Un pot d'accueil vous attend dans la grande sacristie. Vous êtes tous conviés à venir partager un bon moment tous ensemble et à continuer ce lien entre les uns et les autres dans notre communauté. Et vous pourrez ainsi aussi rencontrer le pasteur Martin Germer. Je vous invite à recevoir maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce, qui nous relie les uns aux autres par son esprit, qui nous aime tous tels que nous sommes, nous bénit et nous garde. Amen.